Le racisme dans le football professionnel n'est plus un phénomène passé sous silence. Les débordements font la une des médias.
En marge d'un match de foot, des supporters israéliens ont été agressés.
Vinicius encore victime de racisme en plein match.
La rencontre a été marquée par des gestes antisémites et racistes de la part de certains supporters.
Et les dispositifs de sécurité ne font que s'agrandir, jusqu'à donner le vertige lorsque l'on repense aux 4000 policiers déployés au Stade de France le 14 novembre dernier pour le match France-Israël. Oui, mais voilà, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si les matchs de Ligue 1 ou de l'équipe de France sont scrutés, d'autres passent plus inaperçus. Les matchs des clubs amateurs, où l'on retrouve nos enfants et nos seniors disputer leurs matchs en départemental, régional ou national. Pourtant, les violences et actes racistes n'y sont pas absents. Au contraire, ils seraient même de plus en plus nombreux. Selon la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, une augmentation de 25% serait observée entre les saisons 2017-2018 et 2018-2019, année des derniers recensements. Alors, certains clubs amateurs se mobilisent et font de la prévention à leur échelle. C'est le cas de l'Intermeno Academy, située à Strasbourg. Nous nous y sommes rendus pour ce podcast.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Hors jeu, un épisode signé Léa Bouquet.
Nous sommes le week-end du 9-10 novembre 2024. En Alsace, trois matchs de football amateur sont perturbés par des violences ou injures à caractère raciste. Un match est même interrompu par l'arbitre. L'Intermeno Academy est l'un des clubs touchés par ces incidents. Shaibi Sid Ahmed, son coprésident, revient sur les événements.
Malheureusement, le foot alsacien a été émaillé par plusieurs incidents très violents, dont certains caractères racistes. T'es pas chez toi ici, casse-toi, sale bounou, le sale macaque. Voilà, c'est des choses qui sont assez basses. Voilà, c'est des agressions verbales qui ciblent directement la personne dans son intimité la plus profonde. On est souvent à la limite de violence physique. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y a des attroupements de supporters qui attendent des joueurs à la fin des matchs. Ou bien des jets de canettes, de bouteilles de bière, comme ça s'est passé le week-end du 9 novembre, où un joueur a été touché par un jet de bouteille en verre sur la tête, ce qui est assez grave. Et voilà, on a ce genre d'incident qui commence à se multiplier. Là, on peut en dénombrer au minimum 5 par week-end, ce qui est assez conséquent. Et aujourd'hui, on rencontre souvent des actes de violence qui touchent toutes les zones géographiques. C'est ça qui devient très inquiétant. Avant, on avait quelques zones qui étaient ciblées. On savait plus ou moins, il fallait être un peu attentif et être vigilant. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est propagé à l'échelle, on va dire, nationale. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser et auquel il faut prêter attention et essayer de trouver des solutions.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge plus affectée que d'autres ou ça touche tous les âges ?
C'est quelque chose qui touche en majorité les personnes majeures et seniors, donc les catégories seniors. Mais c'est un problème qui est assez aussi remarqué sur les catégories jeunes, parce que malheureusement aujourd'hui on a des parents, des supporters, un environnement qui est assez, on va dire, hostile et qui a du mal à s'installer comme supporter et juste à mettre en place une ferveur sportive. Et du coup, on a des parents qui ont tendance à déborder et qui ont tendance à cibler des jeunes enfants.
Si le directeur observe une multiplication des incidents à caractère raciste, ce n'est pas toujours évident de les caractériser et de les sanctionner. Retour quelques années auparavant, en mai 2018, où une affaire a particulièrement ébranlé le foot amateur alsacien. Kerfala Sissoko, un jeune joueur de l'AS Benfeld et d'origine guinéenne, est laissé quasi pour mort sur le terrain. Des insultes racistes ont été proférées à son encontre, s'ensuit une bagarre qui dégénère et un carton rouge est adressé à Kerfala Sissoko.
Aujourd'hui, je trouve que les sanctions ne sont pas adaptées aux problématiques. Quand on va être amené à sanctionner un enfant ou un joueur d'actes racistes, on peut avoir des sanctions qui sont relativement fortes. Donc on va l'interdire de pratiquer le football. C'est une chose. Mais c'est derrière ça, cet enfant ou ce joueur va se retrouver derrière la main courante. Donc il va passer en tant que supporter. Et une fois qu'il passe en tant que supporter, la ligue et le district n'a plus aucun moyen de pression sur lui. C'est-à-dire que cet enfant, il sera insensible aux différentes propositions qu'a fait le district avec des cartons violets, le carton blanc. Je ne sais pas si vous avez pu un petit peu en entendre parler. C'est des cartons qui ont été mis à disposition des arbitres pour pouvoir, cibler soit un joueur, soit arrêter une rencontre lorsqu'il y a trop d'incidents. Et le district, voilà, hormis le fait d'avoir mis ses cartons en place et peut-être de mettre des délégués lors de rencontres ciblées comme étant difficiles ou sensibles, ça n'a pas forcément l'impact escompté parce que, comme je vous l'ai dit, la personne qui est retirée du milieu sportif, voilà, n'a plus rien à perdre. Donc il va venir au bord du terrain, il va insulter, il va chercher la bagarre et vous pouvez lui parler de carton violet ou de carton bleu ou de ce que vous voulez. Il ne se sentira pas concerné. Parce que là, lui, il n'aura plus de licence sportive. Lui, il est là pour en découdre ou pour, entre guillemets, excusez-moi du terme, foutre la merde. Donc là, les sanctions que va recevoir le club en termes financiers ou les sanctions pénales sur le championnat, parce qu'on perd des points de temps en temps à cause de ça, ça ne le concerne pas.
Mais ce serait quoi, selon vous, la solution pour essayer justement d'agir là-dessus
Écoutez, il y a des moyens très simples. Mettre en place déjà une forme de passerelle entre nous et les clubs ruraux afin de nous connaître. Parce que souvent, c'est l'inconnu qui nous fait peur. Donc du coup, quand ils disent « on va jouer dans un quartier, ah, ils sont en panique ». Et voilà, l'inverse aussi, quand on va jouer dans les villages derrière, ils vont mal nous accueillir, ça va mal se passer. On a souvent ces préjugés-là. Et ça fait que si demain, on arrive justement en amont se rencontrer, ça va tout de suite atténuer les choses. Parce que voilà, on va apprendre à se connaître, on va voir qu'on est des humains, qu'on est similaires, qu'on habitait par la même passion. Et ça fait que derrière, ça va permettre justement le jour du déplacement d'avoir un visage familier, de dire « ah ben voilà, on se connaît, ça rapproche les gens ». Et ça calme tout de suite, ça fait tout de suite tomber la tension. Donc on avait proposé déjà ce format-là en prévention. On avait aussi proposé de mettre en place, pendant les périodes, comme vous l'avez vu, là, hivernales, pourquoi pas mettre en place justement une forme d'accueil pour ces zones, pour les clubs ruraux, dans les clubs de la ville, de venir exploiter nos terrains, pour que justement ils viennent partager avec nous des moments dans le clubhouse, des moments de joie, des moments de rencontre, et pour qu'ils aient même ce ressenti, se dire en fait c'est super, on a été bien accueillis, et c'est de casser les barrières et casser les codes. Ensuite, pour la sécurité, moi j'avais pensé aussi à d'autres choses, quoi, ne pas mettre tout simplement des caméras fixes qui sont prises en charge par la Ligue, mettre une caméra fixe autour du stade, qui puissent, entre guillemets, filmer les rencontres sur le terrain et en dehors. Et on aurait des vrais éléments, parce qu'on a tendance souvent à être parole contre parole. Alors que là, si on a une vraie caméra, ça ne donnerait pas l'envie à certains joueurs d'être violents, parce que voilà, ils savent qu'il y a des éléments contre eux. Il y a peut-être des supporters qui se comporteraient autrement s'ils savaient qu'ils étaient filmés. Donc tout ça, c'est des choses qui pourraient être mises en place et qui sont relativement simples.
Sans caméra de vidéosurveillance, il est en effet compliqué pour le foot amateur de contrôler les violences et incidents racistes qui peuvent se dérouler durant ces matchs. Et encore plus de contrôler ses supporters, beaucoup moins structurés que lors de matchs professionnels notamment. Dans le foot professionnel, c'est suite à des drames impliquant des supporters, comme celui du Ezel en Belgique en 1985, qu'un contrôle plus strict à l'intérieur des stades a été effectué. Lors du match qui opposait Liverpool à la Juventus, des mouvements de foule avaient provoqué la mort de 39 personnes. Quelques années plus tard, la catastrophe de Furiani en Corse a poussé la législation française à agir de son côté. Des caméras ont été installées et depuis 2006, la loi Sarkozy permet aux clubs de dissoudre les associations ultra qui leur poseraient problème. Si la loi est pensée au niveau professionnel, elle est délaissée au niveau amateur, qui est pourtant gangrénée par des violences tout aussi importantes. Pour comprendre davantage les spécificités du racisme dans le foot amateur, j'ai interrogé William Gasparini, sociologue du sport à l'Université de Strasbourg.
Dans les clubs de foot amateurs, c'est ce que j'appelle un racisme ordinaire de terrain qui se rencontre sur les lieux de match. On désigne souvent les joueurs par leur couleur de peau. Hein. On parle souvent de black. Alors, vous savez qu'en 98, on a même appelé l'équipe de France black blanc beurre. C'était pas péjoratif, mais c'est un langage qu'on utilise dans le monde du football. Et souvent, les joueurs entre eux se désignent par la couleur de peau. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires dans le football où des entraîneurs font du racisme ordinaire, c'est-à-dire pensent que les joueurs de football noir sont supérieurs sur un plan physiologique ou sont plus forts que les blancs qui sont plus tactiques ou plus techniques. Ça, c'est ce que j'appelle du racisme ordinaire du monde du football. Alors que dans le football professionnel, c'est essentiellement dans les tribunes qu'il y a des insultes raciales, que ce soit en France ou en Europe, hein, dans plusieurs grands clubs.
Quel est le rôle des parents dans ce type de racisme ?
Souvent, dans des matchs amateurs de catégorie jeune, on peut avoir des insultes qui fusent dans les tribunes. Ce sont les parents. Donc, moi, je dis souvent, il faut éduquer les parents aussi et pas uniquement les joueurs. Des parents qui peuvent insulter des jeunes, des équipes adverses. Ça, c'est très courant dans le monde du foot amateur. Il suffit d'aller dans le nord de l'Alsace ou d'aller dans des petits villages où on voit que c'est monnaie courante. Beaucoup des parents se projettent aussi sur leurs enfants, sur les résultats de leurs enfants, et donc ils prennent ça comme une sorte de combat dans la vie, et oublient que ce n'est qu'un jeu.
Comment vous expliquez cette dualité qu'il peut exister entre les clubs de la ville et les clubs ruraux ?
Bon, alors c'est plus visible dans le football que dans d'autres sports collectifs, parce que dans le football amateur, on a, en tout cas dans les grandes villes, on a souvent ce qu'on appelle les clubs des quartiers, donc des banlieues, qui sont en QPV, en politique de la ville, avec une forte concentration de joueurs, de jeunes joueurs issus de l'immigration, qu'ils soient africaines, maghrébines ou turques. Et c'est ça qui peut poser problème lorsqu'il y a des déplacements en zone rurale. Il ne faut pas généraliser non plus. Mais souvent, ces clubs, en Alsace par exemple, c'est des clubs du nord de l'Alsace, voilà, qui sont des équipes très homogènes, très blanches entre guillemets, il peut y avoir des formes de débordement. Donc on a une rencontre de joueurs issus de classes populaires, mais qui se fracturent sur le plan ethnique. Après, il faut rajouter d'autres formes de discrimination aussi. Hein. Il n'y a pas que la discrimination ethnique. Il y a des formes de discrimination par rapport à l'homophobie dans le football. Hein. C'est assez vrai. Discrimination sexuelle. Tout ça vient du fait que le football, c'est bien le miroir, le reflet de la société. Et en plus, c'est un sport très populaire. Donc, c'est le premier sport quand même en nombre de licenciés en France. Et c'est pour ça que c'est un condensé de la société actuelle.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Léa Bouquet en novembre 2024. Coordination, Thomas Rozek et Céline Asselot. Réalisation, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.